Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de nos previews de la saison 2020-2021, preview de la saison NBA qui va reprendre d'ici peu. La deuxième partie de Faites entrer la franchise, concept exceptionnel que vous avez découvert la semaine dernière. C'est là nos micros, très content de vous retrouver. Et avec moi cette semaine, deux hommes, deux avocats, deux juges. Tout d'abord, l'homme qui en a assez qu'on lui dise que Desmond Bane est meilleur que Kyle Anderson. Comment ça va, Tom?
ça va très bien, écoute. Ça va. Après, bon début de pré-saison pour lui, mais ça reste la pré-saison. Et pour moi, Desmond Bane n'est pas meilleur que Kyle Anderson, même s'il fit mieux dans le jeu.
Tu sais, Tom, je sais que ça t'énerve quelquefois ce que tu peux lire. Et enfin, l'homme qui rêve déjà de récupérer Kate Cunningham alors que son équipe a même pas encore joué un match en 2020-2021, c'est Elias. Comment ça va, Elias?
Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Encore un petit peu chamboulé par le 1 sur 11 en pré-saison de Jeremy Grant. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal.
Ok, top. Bah, donc cette semaine, donc, on va faire les équipes entre donc 11 et 20. Il y a eu la première partie la semaine passée, donc les premières équipes, on est en ordre alphabétique, je le rappelle. Donc on va voilà se poser une question sur les équipes qui vont donc de Houston au New York, au Knicks de New York. Il y aura un juge et deux avocats qui vont défendre des points de vue opposés sur la question. Vous avez compris le concept la semaine passée et on va commencer tout de suite, je pense, les gars, parce que alors je pense que c'est marrant qu'on commence par eux. Ils sont un petit peu dans l'actu chaude. Les Rockets de Houston. Et c'est moi le juge, donc c'est moi qui vais poser la question. La question que je vais poser à Elias en premier, qui va défendre son point de vue sur la question. Elias, avec un trade de James Harden en cours de saison, est-ce que Houston fera les playoffs?
Alors, j'ai envie de répondre à cette question par la négative. Parce que voilà, l'actualité est un petit peu mouvementée à Houston et pas de la manière la plus positive qui soit. On a un franchise player à qui on a proposé une extension de 100 millions de dollars sur deux saisons et qui l'a décliné. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, on est déjà aussi partagé entre l'inquiétude liée au départ de personnages importants de l'histoire récente des Rockets comme Mike D'Antoni ou d'autres comme Russell Westbrook, Robert Covington et surtout Daryl Morey. Donc on arrive clairement à la fin d'un cycle qui s'est soldé par une violente défaite 4-1 face aux Lakers, après pourtant un premier match remporté. C'est aussi la mort d'un projet de jeu qui a été poussé à l'extrême. Et c'est un petit peu là où le bas blesse, sachant que les Rockets étaient clairement plus forts deux ans en arrière, c'est-à-dire que malgré toutes les tractations, malgré tous les mouvements et un grand nombre de first pick lâchés, ils ont fait que régresser malheureusement. Tout ce qu'ils ont tenté, ça a été un peu des coups d'épée dans l'eau. Et on est face à un franchise player qui aujourd'hui donc réclame son trade alors que tout a été mis en œuvre pour pouvoir le contenter. Donc là on est face à un...
Le juge demande une réponse à la question. Feront-ils les playoffs s'il s'en va?
Voilà, donc je vais essayer de revenir sur ce point-là et je pense que si on doit répondre à cette question de manière directe, moi je ne le crois pas. Je pense pas qu'ils pourront faire les playoffs. Même si James Harden devait être tradé, on a quand même du mal à imaginer le voir l'être dans l'immédiat face à un face à un autre très gros joueur de son calibre, sachant que plus les semaines passent et plus sa cote semble baisser. Donc je vois pas par exemple l'actuel duo, l'ancien voilà duo des Wildcats, donc Boogie Cousins et John Wall mener cette équipe jusqu'en playoff, d'autant qu'il y a énormément d'incertitudes autour de ces deux joueurs également.
La parole est à la défense, Maître Tom. Pourquoi pourrait-il faire les playoffs même sans une partie de la saison sans James Harden?
Alors, moi, je pense qu'ils les feront parce qu'au début, je pense qu'ils vont engranger pas mal de victoires avec James Harden quand il jouera. Ensuite, il y a aussi la notion de package. Je pense pas qu'ils vont trouver quelque chose qui va les intéresser pour se séparer d'Harden tout de suite, puisque comme l'a relayé Shams Charania dans The Athletic, dans un article de The Athletic, les Rockets n'ont aucun intérêt pour l'offre des Nets, sauf si elle inclut Kevin Durant ou Kyrie Irving. Donc en gros, le mec est pas prêt de se faire transférer pour une offre avec l'un de ces deux joueurs-là, et même les offres à côté. Je pense que en fait, avec le montant du salaire de James Harden, tu vas pas récupérer juste un seul joueur, tu vas récupérer plusieurs joueurs de bonne valeur. Donc je pense qu'avec les pièces qu'ils ont déjà récupérées, il y a moyen de quand même faire les playoffs, même si c'est par le play-in du coup qui rajoute un autre astérix du coup à cette saison. Donc même si c'est par le play-in, je pense qu'ils feront les playoffs même s'ils se séparent de James Harden en cours de saison. Et puis dernière chose, hein, je pense que Houston va attendre que Giannis soit les équipes soient désespérées. Et une fois qu'une équipe est désespérée, on l'a vu avec ce qui s'est passé aux Bucks, une fois qu'une équipe est désespérée, on peut te faire des offres que tu ne pensais pas avoir au début pour un joueur. Donc je pense que le trade de James Harden, quand il se fera, va leur apporter de la valeur à court terme qui leur permettra d'avoir un bon niveau pour quand même aller en playoff, plus des assets pour le futur.
Droit de réponse d'Ilias s'il veut rétorquer quelque chose.
Alors je dirais que je suis pas d'accord avec tout ça pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui Houston n'a plus à lutter avec les mêmes équipes que les années précédentes. Maintenant les équipes qui sont censés jouer le play-in la place entre 6 et 8 que pourraient viser les Rockets sont des équipes qui se sont renforcées. Je pense à Portland, je pense à Phoenix, je pense également aux Pelicans. Donc il y a énormément maintenant d'équipes qui convoitent beaucoup plus, on va dire, la place que pourrait sensiblement jouer Houston dans l'immédiat, et c'est la raison pour laquelle je vois pas une équipe, on va dire, qui doit tout chambouler, qui doit tout remanier, et avec des joueurs qui ont énormément de questions physiques qui les entourent, permettre aux Rockets d'aller jusqu'en playoff.
Très bien. Et Tom avait pas le bon rôle là, dans ce.
J'ai le droit à un droit de réponse, non ?
Tu peux conclure si tu veux.
alors, je dirais que, enfin. Alors, les Rockets ont quand même ajouté des pièces plus ou moins intéressantes. Hein. On voit que voilà, ils ont perdu, certes, ils ont perdu Russell Westbrook, mais ils ont rajouté Cousins et Wall qui ont montré des choses intéressantes en pré-saison.
T'as envie de nous parler de Christian Wood. Donc vas-y.
Voilà, c'est une équipe qui s'est renforcée aussi avec des joueurs, enfin qui a encore ses joueurs planchers, PJ Tucker, Eric Gordon, donc qui leur donne une certaine profondeur à l'aile, et Christian Wood, hein, qui est la principale recrue d'intersaison. Et puis t'as parlé des équipes avec lesquelles ils se battent, mais on peut parler des équipes avec lesquelles ils se battent dans la division, et on se rend compte que dans le meilleur scénario, Houston c'est la deuxième meilleure équipe de la division Southwest, donc du coup ça fait les playoffs.
Franchement, je suis plutôt de l'avis d'Ilias. Tom avait la défense difficile. Il y avait un pas un tueur en série multirécidiviste à défendre, mais le casier était plus compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, la seule chose que je pense, c'est que théoriquement, je préfère le fit de John Wall avec Harden que Westbrook avec Harden, théoriquement.
Ouais, mais c'est ça le truc. En gros, il y a Daniel Leroux qui avait bien tourné la phrase. En gros, il expliquait que, par exemple, l'idée de John Wall est plus intéressante que l'idée de Russell Westbrook, ouais. Sauf que la réalité de John Wall est bien moins bonne que la réalité que Russell Westbrook.
Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur John Wall et voilà. Tout ça. Il y a même des incertitudes sur Boogie, donc je vais plutôt aller du côté d'Ilias sur dans la... Donc voilà, l'argument aussi extérieur, d'autres équipes qui se renforcent, une incertitude au niveau du coaching staff aussi, au niveau du front office de Houston, beaucoup beaucoup de changements. Mais ça sera quand même intéressant de voir. Et là, je note la force de persuasion du camarade Tom là-dessus. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer du côté d'Indiana et je crois que c'est Ilias le juge.
Ilias le juge.
Effectivement, donc là on va être face à une équipe et un accusé qui n'a pas un dossier extrêmement chargé, donc il n'y a pas vraiment raison d'être très très sévère avec cette équipe, mais il y a une question qui se pose concernant les Pacers, qui ont un peu tendance à stagner ces derniers temps. Est-ce que vous, donc Tom et Alan, vous croyez en l'avantage du terrain pour cette équipe et donc en vue des playoffs? Du coup, je pense qu'on va commencer par la personne qui n'y croit pas. Et donc, on va commencer par toi, Alan.
Ouais, je crois pas que les Pacers vont pouvoir avoir l'avantage du terrain à l'Est. Tout simplement parce que, donc, pour plusieurs choses déjà, je vois Milwaukee, Boston, Miami, Brooklyn et Philadelphie. Pour moi, c'est 5 équipes meilleures qu'eux. Donc, même s'il y a des questions sur certaines de ces équipes, il faudrait qu'ils en passent 2 pour pouvoir avoir l'avantage du terrain. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des contre-performances dans ces équipes-là, ou il faudrait qu'il y ait une saison régulière moins forte, avec potentiellement un moins fort en saison régulière et plus fort en play-off, mais j'ai du mal à le croire. Et surtout, en fait, je pense qu'ils vont peut-être être dans la course pour les play-offs. J'aime d'ailleurs ce qui s'est passé cet été, en fait, enfin cet été, cet automne, avec le nouveau coach. Je pense que Macmillan est arrivé au bout de quelque chose. C'est un coach qui a fait des passages en G-League, qui est réputé pour ce qu'il a fait du côté des Raptors, avec un esprit assez innovant. J'aime bien. Je connais pas la qualité du coach, mais j'aime l'idée, en fait. Mais je pense qu'en fait, l'effectif pourrait peut-être trop changer. Et il pourrait peut-être amener à bouger en saison régulière, potentiellement la trade deadline. Il y a les rumeurs sur Ladipo, les rumeurs sur Turner. Donc de facto, si tu enlèves un de ces joueurs-là, ils vont être moins bons, ils vont gagner moins de matchs. Ce sera peut-être mieux pour leur futur, mais ça ne sera pas propice à esquisser l'avantage du terrain en 2020-2021. Voilà.
Très bien. Bah écoute, Tom, à toi d'aller dans le sens inverse et essayer de me défendre un petit peu cette équipe d'Indiana et de m'expliquer donc pourquoi ils pourraient en tout cas atteindre les playoffs.
Alors ben Indiana, c'est il y a quelque chose qui va être intéressant pour eux vu qu'il y a eu une très courte intersaison. C'est une équipe qui va bénéficier du coup de la continuité dans son effectif, même s'il y a le changement de coach. Moi, je pense que le changement de coach, un peu comme Alan l'a souligné, hein, que Björgren, c'est un coach qui est beaucoup plus créatif que Macmillan, et je pense qu'il va installer un jeu beaucoup plus moderne du coup. Et on sait que c'est un effectif qui a des joueurs modernes à chacune des positions et qui a même l'avantage d'avoir un stretch five. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à Indiana. Autre raison pour laquelle je pense que cette équipe-là peut viser l'avantage du terrain, c'est qu'elle l'avait déjà l'an dernier, et parmi les équipes qui sont au-dessus, il y a très peu qui se sont améliorées. D'ailleurs, je pense que Boston s'est affaibli pour la saison régulière, et Toronto aussi s'est affaibli pour la saison régulière. Donc je pense que ce sont des équipes qui peuvent dépasser, et à voir s'ils seront pas ils se feront pas passer soit par Miami et Philly pour pouvoir rester dans le top 4, et Brooklyn aussi pour pouvoir rester dans le top 4. Donc je pense que il y a moyen, en fait, puisque c'est une équipe qui a un niveau plancher haut, et en ajoutant Björgen, je pense qu'ils ajoutent quelque chose de plus à leur plafond. Et sur la saison régulière, le fait d'avoir un effectif dense et du coup de pouvoir profiter du calendrier resserré pour faire jouer pas mal de joueurs. Donc je pense que ils peuvent sur la durée avoir le niveau moyen leur permettant d'avoir l'avantage du terrain.
Très bien. Alan, tu voudrais répondre à ça?
Petit droit de réponse, c'est vrai, mais je pense que l'effectif, en fait, la théorie et le projet de Macmillan, c'était pas vraiment le fit. On fait jouer tous les meilleurs joueurs. Et sur le setting saison régulière, ça nous permettra de gagner les matchs, mais en playoff ça posera problème. Est-ce que le fait que d'avoir avec le nouveau coach peut-être plus de théorie, il pensera plus au fit, et donc ça peut-être mécontentera
des plus closing five.
C'est ça, des joueurs qui qui pourrait être. Donc moi, ma théorie, c'est vraiment il y a peut-être des joueurs qui vont pas être heureux du nouveau rôle qu'ils auront avec le coach et que peut-être ça forcera des trades de la part d'Indiana qui en fait baisseront le niveau plancher de cette équipe qui avait un très bon plancher en saison régulière parce qu'en fait ils avaient juste des bons joueurs et ils faisaient jouer ces bons joueurs-là. C'est juste ça que je pense, mais je suis d'accord avec les arguments mis en avant par toi.
Ok, bah si t'es d'accord, je vais quand même accorder ce point-là à Tom. T'avais pas la position la plus aisée non plus, Alan, sur cette question, sachant que j'aime voilà l'idée de la continuité, c'est-à-dire de garder un effectif qui déjà t'a permis d'accéder aux playoffs de manière assez facile, dans une conférence qui est tout à fait abordable pour les Pacers. C'est vrai qu'il y avait peut-être encore un côté un petit peu rustre dans la manière de jouer de cette équipe et le nouveau coach donc venu du staff de Toronto pourra peut-être amener cette modernité. En tout cas, en fonction de ce que l'on peut lire et écouter, ça a l'air d'être son idée. Donc avec voilà le fait de récupérer des joueurs comme Sabonis et comme Oladipo qui n'était pas là sur la fin de saison dernière, je pense qu'il y a quand même moyen pour les Pacers de se situer à minima entre 6 et 7. Donc, je dirais que j'irais plutôt dans le sens de Tom pour cette question. Voilà.
Avantage du terrain. Et oui, autre chose qui n'a pas été mentionnée, que je n'ai pas eu le temps de mentionner puisque je n'ai pas eu de droit de réponse, je me satisfais du point. Deux choses. Ils sont dans la centrale division, la division centrale. Il y a Détroit, ouais. Les Cavs, Chicago et Milwaukee. Incroyable. Avec un calendrier resserré et avec un agenda où tu vas forcément jouer plus souvent les équipes de ta division, je pense que ça peut jouer aussi. Et c'est une équipe, je pense, qui a été un peu sous-évaluée dans la bulle par deux choses, par rapport au fait que Victor Oladipo n'était pas du tout lui-même, n'était pas le joueur qu'on espérait qu'il soit, et aussi l'équipe a joué sans le All-Star entre guillemets de l'équipe, sans Sabonis.
C'est ça, tout à fait. Eh ben écoutez. On va pouvoir passer à la prochaine question qui concerne les Clippers. Et ouais. Là, je redonne dossier la parole Clippers. À
Alan. On va passer à les deux dossiers chauds, les deux dossiers de Los Angeles. Commençons par les Clippers. La question étant, messieurs, avec Tyronn Lue au coaching et la récente prolongation de Paul George, les Clippers feront-ils une meilleure saison régulière, donc en pourcentage de victoire, parce que vu qu'il n'y aura pas 82 matchs, on va réfléchir en pourcentage de victoire, que l'année passée avec Doc Rivers. Ilias, je te donne la parole, tu es plutôt négatif sur le sujet.
Effectivement, bah écoute, je suis ni trop négatif, ni trop positif les concernant, c'est ce que j'avais pu dire aussi il y a quelques semaines dans le podcast, c'est que avec les moves qu'ils ont effectués, avec certaines pertes et certaines arrivées, je vois les Clippers en fait ni plus forts, ni moins que la saison dernière. En fait, je les vois à aborder cette saison avec certaines certitudes et aussi quelques doutes concernant leur effectif. Donc, je pense qu'ils vont rester sur les mêmes bases. Et concernant l'extension de Paul George, je pense que évidemment celle-ci était utile et obligatoire, mais la question c'est aussi de se poser de savoir si elle est méritée. Et à cette question, j'ai envie de répondre non, parce qu'on va dire que le casier, médiatico-basketballistique de Paul George est un petit peu chargé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il va toucher un salaire mirobolant d'une superstar, mais sans vraiment assumer le rôle qu'est le sien. Et là, le problème, c'est que ce qui me tracasse dans les performances récentes de Paul George, notamment en play-off, c'est que toutes ses références play-off appartiennent à son début de carrière et malheureusement, ça ne va que en s'amenuisant au fil des années. On ajoute à ça le fait que son rôle a changé, c'est-à-dire qu'il a beau clamer le fait que ce soit de la faute des autres et notamment de Doc Rivers, c'est quand même lui qui prend les décisions sur le terrain. Et j'ai aussi un souci, au niveau de son dossier médical qui, forcément, en vieillissant, ne risque pas forcément d'aller mieux. Donc, c'est un petit peu ce qui me fait dire que les Clippers se stagneront à un moment où ils voient le voisin Lakers leur prendre des joueurs et en plus se renforcer alors qu'ils viennent d'être tout fraîchement titrés.
Tom, pourquoi tu penses, toi, plutôt l'inverse et que donc les Clippers feront une meilleure saison régulière que l'an passé ?
Alors, première chose, je pense qu'il y a la notion de changement que Tyronn Lue va insuffler un nouvel air sur la franchise. Et en fait, ils ont tourné la page de l'équipe de l'ancienne équipe de Doc Rivers et des gars qui étaient là avant l'arrivée de Kawhi, Montrezl Harrell, le corps, le noyau, Montrezl Harrell, Lou Will, tout ça, ils ont tourné la plage. Et du coup, je pense que avec Tyronn Lue, il y aura quelque chose de nouveau du coup avec les Clippers, et ils seront un peu meilleurs en saison régulière. Autre chose, c'est une équipe, je pense qu'ils ont appris qu'ils n'étaient pas une équipe flip the switch. En gros, je pense qu'ils vont jouer beaucoup plus sérieusement, parce qu'on a vu que chaque fois, on s'est dit, les Clippers, de toute façon, ils ont le potentiel pour être monstrueux, mais on verra en playoff. Finalement, on l'a pas vu en playoff, et je pense que là, ils vont donner plus d'intérêt à la saison régulière pour avoir les automatismes, plutôt que simplement se dire, quand on ira en playoff, on a assez de talent pour pouvoir rivaliser avec les Lakers. Autre chose, je trouve que la prolongation de Paul George enlève pas mal de pression sur l'organisation, et ça enlève pas mal de pression sur lui. Et au contraire, je pense que ça va le motiver, lui. Alors certes, on peut dire que le contrat est gros, mais de toute façon, si Paul George il était agent libre, il y a 6 ou 7 franchises qui lui proposent le max demain. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. Et ils ont fait des additions qui sont intéressantes, qui vont rajouter en fait du mouvement de balle là où ils ont enlevé des stoppeurs de balle. Ils ont rajouté des joueurs qui sont un petit peu plus bougeurs de ballon, et je trouve que en termes de liant et en termes de basketball de saison régulière, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant pour eux.
Ilias, petit droit de réponse sur ce que vient de dire Tom.
Alors j'ai un autre problème concernant les Clippers, c'est que pour pouvoir être meilleur en saison régulière, il faut aussi pouvoir compter sur un banc, chose qu'ils avaient, je trouve, en tout cas la saison dernière. Et j'estime en tout cas qu'ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs de banc de la saison dernière, qui étaient Montrezl Harrell et Jamichael Green. Je trouve que ces joueurs n'ont pas été remplacés. Je pense que Ibaka, sa place, ça sera plutôt dans le 5, mais quand il faudra justement un peu moins tirer sur la corde de joueurs comme Kawhi et comme Paul George, qui sont les joueurs qui prendront le relais et qui devront justement assumer un rôle de ball handler et de création dans cette équipe. Et malgré tout le respect que je lui dois, je ne vois pas du tout Nicola Batum pouvoir endosser ce rôle-là. Et c'est la raison qui me fait dire que je vois pas les Clippers faire une si bonne saison régulière que ça. D'autant que ils resteront calculateurs. Évidemment, ils ont dû apprendre des erreurs de la saison passée, mais ils doivent quand même rester calculateurs, se dire que ça sera une saison condensée dans laquelle il y aura quand même un bon nombre de matchs, et que pour pouvoir justement aborder les playoffs, il faudra peut-être de temps à autre, non pas comme ils l'ont fait l'année dernière, c'est-à-dire trop, préserver Paul George et Kawhi, mais peut-être le faire de temps à autre. Et là, qui prendra le relais? Moi, personnellement, j'ai encore une dernière question concernant cette équipe, c'est quel playmaker? Ils ont cherché à prendre Rajon Rondo, ils ne l'ont pas eu, et malheureusement, on n'a toujours pas ce playmaker attitré.
Tom, droit de réponse, sachant que moi, j'ai une idée sur quel est le playmaker attitré. Mais je suis juge, je ne suis pas avocat.
Alors, on avait pu en discuter dans un podcast précédent. Moi, je trouve que Paul George aura énormément de rôle déjà au playmaking. Enfin, je pense qu'on aura plus un joueur dans la trempe de ce qu'on avait à Indiana, plutôt que ce qu'on a eu ces dernières saisons avec OKC et aussi les Clippers. Je pense que Luke Kennard, par rapport à Landry Shamet, c'est une arrivée qui est beaucoup plus intéressante, notamment en termes de mouvement de balle, de playmaking. Et aussi, enfin, c'est quelque chose qui est sous-estimé peut-être, mais par exemple Ibaka, c'est un joueur qui sort de sa meilleure carrière en termes d'assist percentage. Donc on voit que, enfin, c'est plus simplement un finisseur d'action, mais c'est un joueur qui peut aussi faciliter le jeu, comme on l'a vu avec Toronto quand il jouait soit aux côtés de Marc Gasol ou soit au relais de Marc Gasol. Il y avait quand même toujours un beau jeu et de la distribution du côté de Toronto. Et puis autre pièce qui est intéressante, les Clippers la saison dernière, ils n'ont pas commencé la saison avec Marcus Morris, qui pourrait avoir un rôle un peu dans des situations de staggering entre guillemets, où tu vas plutôt monitorer tes titulaires et tes joueurs de banc plutôt qu'avoir 5 et 5. Je pense que Marcus Morris va beaucoup jouer avec le banc pour son usage.
Très bien. Oui, il sera aussi en charge des chevilles de Luka Doncic. je vais aller vers Tom personnellement, parce qu'en fait, je trouve que les deux pour moi, je pense déjà que Serge Ibaka sortira du banc. Je pense, hein, je suis pas sûr, on n'a pas vu les déclarations. Mais je trouve que Luke Kennard, Serge Ibaka, c'est plus fort que Lou Will, Montrezl Harrell, en fait. Pour moi, c'est plus fort en saison régulière. Peut-être pas sur. Oui, en saison régulière et en play-off. C'est plus fort des deux côtés du terrain, tout simplement. Donc, je pense.
Et Louis, il est encore là, en plus.
Et c'est des joueurs. Louis, il est encore là, et c'est des joueurs qui peuvent. Mais je veux pas de Louis à la création en fin de match, parce qu'il sera ciblable en défense. Luc Kennard est ciblable en défense, mais un peu moins. Et je pense que voilà, c'est l'année 2 du projet. Je suis pas fan du contrat de Marcus Morris. Je suis pas super fan de l'extension de Paul George. Mais ils seront meilleurs, je pense. Et puis ils ont des choses à prouver. Donc je pense qu'il y aura un esprit de revanche dans cette équipe qui font une bonne saison régulière. Ils seront peut-être pas devant les Lakers, mais ils feront une meilleure saison régulière. Voilà, tout simplement.
Ouais. C'est des extensions en fait qu'on ne cautionne pas, mais qu'on peut comprendre en tout cas. C'est les Clippers, ça, ont eu raison en tout cas de le faire. Voilà, exactement. C'est ça. Tout à fait.
On va passer au voisin, messieurs. Le voisin Lakers, je suis encore juge, je suis énormément juge dans ce début de podcast et ensuite je vais passer le barreau. Les Lakers, question simple messieurs, question simple parce que c'est Tom qui voulait qu'on parle de ça, donc il a un avis sur la question, donc ça va être intéressant. Les Lakers n'auront pas un des trois meilleurs bilans à l'Ouest. Tom, tu penses que c'est possible?
Incroyable.
Ouais.
Je te lance.
Alors, c'est quelque chose qui est dur à défendre, mais je pense que les Lakers n'auront pas un des trois meilleurs bilans à l'Ouest cette saison, tout simplement parce que la saison régulière, ils s'en moquent complètement. Je pense que l'effectif a largement les moyens. Je pense que c'est le meilleur effectif de l'Ouest. Si tout le monde jouait le jeu, je pense que les Lakers, c'est l'équipe qui serait première de conférence et de très loin. Je pense qu'ils sont même dans un tiers. À eux-mêmes, tu vois, il y a, on pouvait se poser la question, le tiers, Lakers, Clippers. Là, maintenant, je pense que les Lakers sont seuls de leur tiers. La raison pour laquelle je pense qu'ils auront pas un bilan qui reflétera le niveau réel de l'équipe, c'est parce que LeBron James et Anthony Davis ne vont pas jouer plus de 50 matchs cette saison. Je pense que, voilà, c'est une équipe qui, il y a 8 semaines, qui jouait les finales NBA. Et je pense que ça va prendre du temps pour revoir LeBron James, Anthony Davis. On sait que ça va être plus des joueurs de 16 matchs que des joueurs de 82 matchs. Il y aura beaucoup moins du coup de minutes de LeBron James à la création cette saison. Et l'an dernier, on l'a vu, quand LeBron James n'était pas sur le terrain, le différentiel était négatif. Et c'est quelque chose qui va poser problème. Je pense qu'il y aura aussi énormément de minutes qui seront données à des joueurs qui doivent se montrer en vue d'un prochain contrat. Dennis Schroeder, Caruso, Harrell, Kuzma. Donc, par rapport à ce mix-là, je pense que même si l'effectif est beaucoup plus fort, je pense qu'on va arriver sur une saison où les Lakers auront un bilan bien en deçà du niveau de l'équipe.
Ok. Ilias, tu penses qu'ils seront dans le top 3 à l'Ouest ?
Je vais même au-delà. Moi, je les vois très facilement, même numéro 1. Il y a peut-être un élément qui pourrait faire que les Lakers puisse être titillé, c'est justement la densité que leur propose leur division. Ils sont accompagnés de beaucoup de fortes équipes et auront forcément du coup à beaucoup les jouer et donc laisser quelques matchs en route. Mais le recrutement des Lakers, déjà, il a le mérite de combler une déficience qu'on avait déjà ciblée la saison dernière. C'était justement le côté non prolifique du banc qui en l'absence de LeBron avait la capacité à prendre des déluges, comme l'a souligné Tom. Mais là, cette fois-ci, voilà, on a ajouté des joueurs comme Montrezl Harrell et comme Dennis Schroeder, qui sont quand même les deux meilleurs sixième hommes de la saison dernière. Et au-delà du fait, d'être ces deux joueurs-là, je trouve qu'ils ont aussi une capacité à pouvoir jouer ensemble et donc à reposer des joueurs comme AD et LeBron sans justement se prendre des vagues de points dans la gueule. Donc je pense que les Lakers ont fait un excellent recrutement, c'est-à-dire que contrairement à tous leurs opposants de la saison dernière, qui étaient donc les Rockets dans leur conférence, qui étaient donc les Clippers et également les Nuggets, c'est la seule équipe du top 4 à l'Ouest que j'ai vu se renforcer. Et ils ne se sont pas renforcés par un ou deux ajouts, ils se sont vraiment renforcés de manière considérable. Ils ont juste perdu Avery Bradley dans toute cette vague de mouvement qui est donc parti vers le Heat, mais un Bradley dont ils n'ont pas eu besoin pour être champion dans la bulle. Et Danny Green, voilà, exactement, qu'ils ont remplacé par un joueur sensiblement aussi prolifique que en la personne de Wes Matthews. Et on va même se dire, enfin, pour pouvoir justement jauger un peu l'effectif des Lakers et de leur capacité donc à gagner beaucoup de matchs, la saison dernière, à la même période, c'est-à-dire plutôt à l'avant-saison, on ciblait un joueur comme Kyle Kuzma. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup d'écrits et de voix qui allaient dans ce sens-là. On voyait en Kyle Kuzma la capacité d'être le troisième joueur des Lakers. Aujourd'hui, on en est à se poser la question de savoir s'il est même le neuvième ou le dixième. C'est dire un petit peu, voilà, l'amplitude et la densité de talent qu'a pris d'un coup les Lakers. Une saison est passée par là et aujourd'hui, ils en sont au point actuel, c'est-à-dire un effectif relativement chargé. Et voilà, au-delà de tout ça, bah, t'as LeBron et AD qui certes seront préservés, mais à quel degré encore? Et avoir LeBron James et Anthony Davis dans ton équipe, allez, quand bien même tu pourrais en reposer l'un ou l'autre, tu restes quand même ultra fort et compétitif et capable de gagner beaucoup de matchs.
Droit de réponse, Tom, ou pas?
Moi, je trouve que les éléments avancés par Ilias se tiennent vraiment. Je pense que c'est limite le plus logique. Après, enfin, il faut voir les équipes aussi qui pourraient peut-être leur passer devant. Par exemple, j'ai parlé des Clippers tout à l'heure. Je pense que, par exemple, les Blazers sont beaucoup plus intéressés à gagner des matchs que les Lakers en saison régulière cette saison. Et autre chose, t'as deux équipes comme Denver et Utah qui auront des victoires automatiques à cause de l'altitude et du calendrier resserré. Donc, je pense que ces éléments-là peuvent jouer aussi à l'encontre des Lakers. Et puis, t'as mentionné le fait qu'ils avaient récupéré les deux derniers sixième hommes de l'année. Par exemple, moi, je trouve que Schroeder, la saison dernière qu'il a faite, c'est quelque chose qui pourra pas reproduire dans un meilleur c'est quelque chose qui pourra pas reproduire dans un tel environnement. Et puis, comme on l'a dit, hein, ce qui avait fait sa force, lui, et ce qui a fait ça, le fait qu'ils soient un candidat légitime au poste de sixième homme de l'année, au titre de sixième homme de l'année, c'est le fait qu'il y avait le Twig World lineup qui fonctionnait bien à OKC. Et quand tu regardes les stats selon Cleaning the Glass, quand Schroeder était sur le terrain sans Chris Paul et sans Shai, l'équipe avait un net rating de -16. Donc en gros, c'est pas lui. Il contribuait, mais c'est pas lui. Donc pour moi, l'équipe sera un peu moins bonne à cause de ça.
Ilias, petite voix de réponse, ou t'as rien à rajouter?
Bah, je dirais que voilà, Schroeder, on a parlé de saison régulière et de la capacité des Lakers à être dans le top 3. Moi, je les vois même donc numéro 1. Je l'explique aussi tout simplement parce qu'en fait, Schroeder viendra numériquement compenser la perte de Rondo, qui est plus ou moins tout à fait l'inverse, en tout cas en termes de réputation. On a tendance généralement à voir plutôt un Rajon Rondo qui cristallise beaucoup de critiques pendant la saison régulière, mais qui, voilà, contrairement à d'autres joueurs qui se font accompagner leur nom du sobriquet de playoff, on a vraiment eu le playoff Rondo la saison dernière. Alors que voilà, concernant Schroeder, moi j'ai des grosses certitudes le concernant pendant la saison régulière. Je sais qu'il va apporter, je pense qu'en compagnie d'Arel, ils vont beaucoup faire de mal au deuxième 5 NBA, mais c'est vrai que là j'ai plutôt une question en suspens pour la suite, c'est-à-dire les 16 derniers matchs les plus importants de la saison, c'est justement le point d'interrogation en playoff.
Très bien, je vais faire vite, je vais aller du côté d'Ilias, même si les points avancés par Tom sont très intéressants, mais pour moi ils sont intéressants dans un setting playoff. Je vais le dire simplement, je suis pas fan d'Arel pour les playoffs et je suis moins fan de Schroeder pour les playoffs. Par contre, j'aime bien en saison régulière dans l'optique de reposer LeBron et AD, parce que tu vas pouvoir être meilleur contre les mauvaises équipes. Par contre, tu seras moins bon contre les bonnes équipes. Donc ça pourrait être problématique en playoffs, mais je pense qu'ils seront quand même top 3. Mais ça serait intéressant de voir, mais je préfère l'intersaison des Clippers que celle des Lakers dans une optique playoff. Voilà. Tout simplement. Et on va passer à Memphis avec toi, Ilias.
C'est ça. Donc, je réendosse le rôle de juge de Perry Mason, pour ceux qui se souviennent de cette fameuse série. Donc, on va aller du côté de Memphis. Et donc là, forcément, Tom aura des arguments à faire valoir. La question, elle est la suivante. Est-ce que Memphis n'est pas l'équipe la plus surestimée de la NBA? À toi de répondre à cette question, Tom.
Franchement, Memphis est surestimé dans la même phrase. Moi, je trouve ça choquant. Je pense que c'est même pas l'équipe la plus surestimée de sa division. L'équipe la plus surestimée de sa division, on en parlera juste après, donc vous inquiétez pas. Je pense que, enfin, pour moi, je pense que Memphis est peut-être l'équipe la plus surestimée par le NBA Twitter par rapport à ce qu'ils ont fait pendant l'intersaison et qu'ils ont ramené pas mal de Darling Twitter, par exemple, dans le jeu. Mais globalement, quand tu regardes les classements des analystes NBA, quand tu vas voir sur, par exemple, sur 538, 538, caution Montaigne, quand tu vas sur 538, tu te rends compte que Memphis est dernier à l'ouest selon leur modèle de projection. que Vegas, à Vegas, Memphis est 18 et 11e, pardon, de la conférence Ouest, et que selon les analystes d'ESPN, Memphis est classé 18e de la ligue. Donc pour moi, c'est pas une équipe qui est surestimée du tout. Alors oui, on parle beaucoup des maillots, de Jamoran, de Jaren Jackson. Je pense que c'est une équipe qui a peut-être le plafond actuel le plus surestimé de la ligue, mais c'est pas du tout l'équipe la plus surestimée de la ligue.
Très bien.
Dis-moi toi, Alan.
Pour moi, c'est... Alors j'avoue être influencé en tant qu'avocat par le NBA Draft Twitter et par le NBA Twitter qui a pris d'assaut la franchise de Memphis depuis 2 ans. Mais en fait, pour moi, oui, je les trouve assez surestimés. C'est pas forcément négatif. Déjà, j'ai une question sur Jaren Jackson. Comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure? Il était très important. Il est très important. C'est pas la même équipe avec et sans Jaren Jackson. J'ai aussi une question sur, selon moi, est-ce que ce qu'ils ont fait l'année passée, donc le 5 avec Jamoran, Dylan Brooks, tout ça était vraiment bien, mais là où ils faisaient vraiment un chantier complet, c'était avec le banc. Avec un 5 ou avec d'entour de D'Anthony Melton, Tyus Jones, Brandon Clark, ils avaient un net rating quasiment de plus 20. Je pense que c'est un des meilleurs de la NBA sur un temps de jeu important. Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se refaire cette année? La petite magie de Taylor Jenkins en année 1 dans le coaching, dans les ajustements, est-ce que ça peut se faire? Même si c'est un jeu. Et alors, autre chose, même si Jake Crowder n'a pas fini la saison et qu'il n'était pas exceptionnel au shoot quand il était du côté de Memphis, c'était un joueur solide à l'aile et un joueur qui fitait bien des deux côtés du terrain. Ils étaient moins bons dans la bulle sans Jake Crowder et en termes de fit, voilà, je trouve que c'était moins intéressant en termes de spacing pour un joueur comme Ja Morant. Et je vois des équipes qui se sont renforcées à l'ouest comme Portland, même si Portland leur est passé devant à la fin sur la saison régulière, Memphis était devant Portland, comme Phoenix, comme Golden State qui va revenir aussi. Ils sont peut-être pas renforcés Golden State, mais ils ont des retours qui sont quand même notables. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais je pense qu'ils sont un petit peu surestimés par une mouvance d'analyse qui est très haut sur les jeunes joueurs de Memphis. Moi, je pense pas qu'ils sont en play-off l'année prochaine. Je pense qu'ils vont jouer le play-in, mais ils sont pas non plus très loin de d'autres équipes qu'on pense bien moins fortes qu'eux, en fait.
Est-ce que tu veux répondre à ça, Tom?
Oui, la question, c'est pas est-ce que Memphis est meilleur, c'est est-ce que Memphis est l'équipe la plus surestimée de la NBA. Il y a une nuance. Memphis n'est pas l'équipe la plus surestimée de la NBA. Non, ça, c'est choquant. Et puis, encore une fois, je vais reprendre les mots de Ben, qui, à chaque fois qu'on parle de surestimé, il va voir Vegas. À Vegas, Memphis est 11e à l'ouest. Donc, ça peut pas être qu'une équipe surestimée.
Ouais, j'ai le droit de réponse rapide. Surestimé, c'est pas juste, c'est pas 100% mis par les paris. C'est pas qu'il y a pas que ça qui rentre en jeu. Oui, c'est en jeu, ça rentre en jeu parce que c'est.
Il y a pas de match à la télé non plus.
Oui, mais
il y en a.
Est-ce que t'as un exemple? Je vais t'embêter, Alan. Mais est-ce que t'as un exemple concret pour justement imager un peu ton propos concernant le fait qu'on puisse voilà mettre Memphis à une place qui ne serait pas la sienne?
Bah non, mais c'est. L'année dernière, ils étaient 9e, ils ont été 8e toute la saison régulière. Pour moi, ils seront jamais dans le top 8 cette année à l'Ouest. Et c'est pas forcément négatif pour eux en plus. Mais c'est juste que c'est la vie que j'ai là-dessus en fait.
Bah du coup, les gars, vos deux arguments m'ont plutôt convaincu en fait. J'ai envie de partager ce point-là et de vous l'accorder à tous les deux. J'aime la mise en image qu'a proposé Alan, mais je rejoins aussi également Tom parce qu'on a plus une sur-hype plutôt qu'une surcote en fait. C'est juste qu'on a un petit peu plus mis les Grizzlies en avant, tout simplement parce que ces dernières années, on n'a pas eu de joueurs de la trempe de Ja Morant sur le plan purement visuel, et peut-être que voilà, le fait de pouvoir rebalancer quelques maillots rétro les a un petit peu plus mis en avant. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on n'a pas forcément mis Memphis à une place qui n'était pas la sienne. Donc partage des points et balle au centre. Donc on va passer à la prochaine question. Et là, cette fois-ci, c'est Tom qui va recouvrir sa jolie toge noire.
C'est ça. Pour la première fois de l'épisode, du coup, je suis juge et on arrive sur le Miami Heat, du coup. Alors, la question, messieurs. Après leur triple en finale de l'an dernier, Miami est-il bloqué dans un entre-deux entre gagner maintenant et être flexible pour 2021? Le mot clé de cette question est le côté bloqué. Parole à la défense. Alan?
Je pense pas qu'ils sont bloqués parce qu'en fait, alors il y a des signatures qui ont pu surprendre sur le montant accordé. Mais si on regarde en termes de longueur, c'est des choses qui peuvent être vraiment utilisables très prochainement pour se renforcer. Si Miami veut se renforcer juste sur l'année 2020-2021 et qui, si ils ne sont pas utilisés, n'auront pas énormément d'influence pour 2021. Voilà. Myers-Leonard, pour moi, c'est une trade exception. C'est un joueur qui va pouvoir être incorporé dans un deal pour matcher les salaires si Miami cherche à se renforcer durant la saison. Potentiellement, même Goran Dragic, j'ai envie de te dire. Goran Dragic, pour moi, je pense que c'est un joueur qui peut être aussi incorporé dans un deal. Il a fait une très bonne bulle, très bon playoff, mais faut pas oublier qu'il a commencé la saison l'année passée en tant que sixième homme. Et c'était, donc il était très bon dans ce rôle-là, il a eu un changement de rôle qui fait que si Tyler Hero continue à prendre de l'ampleur, potentiellement Tyler Hero, selon moi, pourrait être le titulaire de cette équipe. C'est pas forcément positif, mais c'est ce qui pourrait arriver niveau contractuel et niveau timeline. Et encore, pour moi, un joueur comme Kendrick Nunn, qui sous contrat rookie peut être un asset, qui peut être utilisé. Donc voilà, ils ont perdu Derrick Jones, ils ont perdu Jay Crowder. Surtout Jay Crowder était un joueur hyper intéressant pour eux dans la bulle. Ils l'ont un petit peu remplacé par un Mo Harkless, par exemple, en termes de roster. Mais pour moi, ils se sont pas bloqués pour à terme trop avec ce qu'ils ont fait à l'automne.
Parole à Elias.
Bah écoute, on va un peu sortir de la salle d'audience et aller un peu dans la rue. Du coup là, les amis, on parle de quoi là concernant Miami? On parle tout simplement de pouvoir acquérir un joueur, peut-être même de la trempe supérieure de leur leader qui est Jimmy Butler. C'est ça en fait véritablement ce que cible Pat Riley, et j'ai l'impression que le simple fait qu'ils soient impliqués dans des discussions concernant James Harden fait qu'ils sont justement bloqués par cette question-là. C'est-à-dire que est-ce qu'on attend la saison prochaine de voir si on peut justement récupérer un joueur de la trempe de Giannis, ou est-ce que on sécurise véritablement le fait de pouvoir acquérir un joueur de cette trempe-là en échangeant des assets actuels contre un James Harden en cours de saison, sachant que dans l'immédiat, ils sont un petit peu bloqués, sachant que, comme l'a mentionné Alan, on a de la non-trade clause, on a également le fait de pas pouvoir échanger certains joueurs avant le 6 février prochain, donc tout ça, ça implique le fait de pouvoir modeler un petit peu la gestion de la franchise, et je pense que dans l'immédiat, ce que cherche à faire Riley, c'est récupérer une superstar pour pouvoir définitivement assumer la position de Miami dans les années à venir au sein de la conférence et même de la NBA, sachant que on va même dire que là ils ont un petit peu excédé les attentes, et pour pouvoir, on va dire, finaliser le rêve qui est le leur, c'est-à-dire de retoucher un trophée NBA, ils ont besoin, à mon avis, de soit transférer pour James Harden, soit d'acquérir de manière sûre Giannis Antetokounmpo.
Droit de réponse, Alan.
J'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné par mon camarade adversaire. Après, pour moi, Harden, c'est peut-être plus une lubie pour l'instant, je trouve, du côté de Miami. Je pense qu'en fait, il pourrait se renforcer avec un joueur moins fort, avec un contrat moins long, et en fait, voilà, se positionner, parce que ça peut être un secret de positionner. Je pense être flexible pour 2021 égale se positionner sur Giannis Antetokounmpo. Donc, le contrat de Goran Dragic, potentiellement suite de Myers-Leonard, d'autres, serait pour se renforcer, vraiment faire un push en 2021, des contrats qui se terminent, et après ensuite, voilà. Donc, je le vois pas bloqué comme ça, tout simplement.
Ilias ?
Écoute, j'ai pas plus de choses à ajouter que ce que j'ai déjà mentionné.
Alors, les deux avis se tiennent. Alors, moi, je vais plus partir du côté d'Alan pour le coup, par rapport à la lubie de James Harden, qui, moi, j'y crois pas du tout, en fait. Et je pense que même s'ils ont les moyens de faire des deals cette saison, alors oui, il y a des trades plus tacites, comme tu l'as dit, mais il suffit simplement d'activer la deuxième année qui est en team option pour que du coup le joueur soit transférable. Donc je pense que ils sont pas bloqués. Si on reste sur le côté bloqué, ils sont pas bloqués, même si c'est vrai que le côté James Harden et la prise en, le côté prise en otage pour améliorer le roster est un bon point Elias. C'est bien bien d'avoir ramené ça. Mais du coup, moi, je donnerais le point à Alan.
C'est normal, j'étais dans la mauvaise posture, les gars.
C'est
C'est
vrai.
vrai, c'est vrai.
C'est vrai.
Parce qu'on sait tous que voilà, le Godfather, le parrain qui est Pat Riley, trouvera forcément voilà une entourloupe et arrivera à ses fins.
C'est ça. Mais du coup, vous avez parlé de pourquoi du coup le Heat veut rester flexible pour 2021 et du coup on arrive sur l'équipe de ce joueur-là. Je suis encore le juge. Nous allons parler des Bucks. Entre la faible profondeur de l'effectif et les incertitudes autour de Giannis, êtes-vous inquiet pour les Bucks cette saison? Alan n'est pas inquiet, mais on va commencer par lui.
Je suis pas inquiet pour la saison dans sa globalité. Peut-être inquiet sur le fait qu'ils gagneront peut-être moins de matchs en saison régulière. Ils ont perdu Eric Bledsoe, George Hill, Wes Matthews, Ersan Ilyasova, des joueurs importants de la rotation. Des joueurs qui font que sur 82 matchs, ils te permettent d'avoir toujours un niveau plancher à côté de Giannis, Chris Middleton et Brook Lopez. Ils ont perdu ça, je suis d'accord. Mais ils ont ramené Jrue Holiday. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, donc dans l'inquiétude de la saison, dans l'objectif playoff. Alors Jrue Holiday peut-être des fois surestimé, je trouve, par certains analystes, mais c'est pas Eric Bledsoe, Jrue Holiday. Eric Bledsoe était un joueur qui avait une fâcheuse tendance depuis 2 ans à disparaître dans certains moments importants de playoff, à avoir un manque de playmaking, ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu apporter à côté de Giannis, parce que ce qu'on a vu dans les moments les plus délicats des Bucks, c'est un Giannis fort, mais sur du drive. Des joueurs qui mettent pas de shoot à côté et Chris Middleton qui est peut-être trop dépendant de son adresse pour peser en attaque. Jrue Holiday t'apportera plus de playmaking en fait. J'aime DJ Augustin, c'est pas George Hill, mais c'est un backup NBA sur le poste de meneur. Torrey Craig, c'est un 3 and D qui défend. Est-ce que Torrey Craig est un meilleur joueur que Marvin Williams en 2010, en 2020? Oui, ça peut se défendre. Et puis sur la saison régulière, ils ont quand même toujours. Budenholzer va réussir à te sortir un Bryn Forbes qui va pouvoir te mettre des tirs et potentiellement utiliser Bobby Portis sur la saison régulière, pas sur les playoffs. Donc sur la saison régulière, peut-être moins confiant sur le plancher de l'équipe, mais je suis confiant sur le plafond. Et je pense que c'est une équipe qui va être en mission. Giannis va être en mission et je pense que Milwaukee n'est pas non plus un énorme. Bon, marché, on a discuté il y a quelques semaines. Les attentes, le stress de la resignature est là, mais il y aura surtout une envie d'aller en finale NBA pour cette équipe. Voilà.
Parole à Elias, du coup. Pourquoi es-tu inquiet?
J'ai entendu les arguments d'Alan. Je suis pas du tout inquiet pour la saison régulière des Bucks, mais évidemment quand on parle de saison, on y incorpore forcément le facteur playoff et je vois très nettement les Bucks au-dessus de la conférence Est et donc être numéro un pour la troisième année consécutive. En revanche, je vais peut-être avoir un souci avec le mindset dans lequel pourrait être Giannis, sachant que il a sur la table une extension max. Il a également, voilà, une free agency qui se profile, et il a surtout énormément de doutes autour de la capacité de son front office à pouvoir l'entourer. Dans un premier temps, ils lui ont ramené Jrue Holiday, je trouve en lâchant quand même pas mal d'assets, mais je pense que c'est ce que ça méritait pour pouvoir récupérer un joueur qui va quand même te permettre voilà, de rehausser un petit peu ton plancher en playoff. Pas forcément de quoi te mener de manière certaines en finale NBA, mais voilà, j'ai quand même du doute sur la manière dont les Bucks vont aborder cette saison et tout réside dans le fait de pouvoir contenter Giannis. Je pense que si le GM avait fait l'effort, enfin en tout cas s'ils avaient mieux jaugé le trade de Bogdan Bogdanovic, je pense qu'avec ce joueur-là, tu élevais en plus de l'ajout de Jrue Holiday ton plancher de manière considérable pour pouvoir véritablement impacter ta saison et peut-être enfin accéder au final. et donc possiblement garder Giannis. Mais là, je trouve que il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui tournent autour de ces Bucks, et je suis moyennement confiant en tout cas pour les playoffs et l'avenir.
Droit de réponse rapide.
Très rapide. Je pense que le trade de Jrue Holiday les met en péril sur le long terme en termes d'assets, pas sur la saison. Voilà.
Ilias.
Effectivement. je suis plutôt d'accord, mais voilà. Encore une fois, on va synthétiser, faire de manière simple. Hein. Le moment de vérité pour les playoffs, pour les Bucks, comme pour ces deux dernières saisons, ce sera en playoffs.
Oui, encore une fois, hein, pas mal d'arguments des deux côtés. Moi, du coup, pour le coup, j'irai plus du côté d'Ilias. Alors, Alan, j'entends parfaitement tes arguments, mais en fait, j'ai pas la sensation en fait que les Bucks sont si hauts que ça par rapport au reste des autres équipes qui doivent jouer pour sortir de la conférence. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même certaines incertitudes autour de l'équipe, et surtout si Giannis ne signe pas le Supermax, comment l'équipe va pouvoir naviguer avec la pression. On l'a vu, hein, chaque fois que tu as des joueurs qui vont être libres, on a vu ce qui s'est passé aux Cavs avant que LeBron parte, avant que Kawhi parte, tout ça. Donc tout le temps, il y avait les questions, vous êtes libre, qu'est-ce qui va se passer au roster? Donc comment ça va se passer? Comment le roster va pouvoir gérer le fait des rumeurs de départ de Giannis?
Tout à fait. Bon, bah écoutez, je me remets dans la peau du juge, et cette fois-ci, on va aller là où il fait froid. Là où il y a de jeunes loups. Du coup, on va essayer un petit peu d'aborder la question de Minnesota. Et voilà, c'est une équipe qui a pas mal bougé ces derniers mois, que ce soit à l'intersaison ou même pendant la saison dernière. Mais maintenant, on a face à nous une équipe qui est en capacité de beaucoup attaquer, de beaucoup scorer, mais peut-être moins de défendre. Du coup, la question, elle est la suivante, les gars. Est-ce que leur attaque, elle va leur permettre de les mener jusqu'au play-in? Du coup, c'est toi que je vais lancer sur cette question, Tom.
Alors, je pense que, enfin, l'attaque je pense qu'ils ont potentiellement une attaque top 5. Je pense ils ont potentiellement une attaque top 5 au pic, mais je pense que ça va pas suffire puisque la défense sera trop mauvaise de l'autre côté. C'est une équipe qui a un problème de profondeur au niveau du poste 4. Donc du coup, enfin, au niveau du joueur qui doit jouer aux côtés de Karl-Anthony Towns, on va dire ça comme ça, au niveau du joueur qui doit jouer aux côtés de Karl-Anthony Towns, ou des situations où les situations défensives et défensivement, je pense que c'est une équipe qui sera beaucoup trop à la ramasse pour pouvoir aller jusqu'au play-in. Autre chose, je pense que il y a pas mal de choses qui vont jouer sur cette équipe-là. Je serais pas surpris de voir Anthony Day et Tony Edwards avoir énormément de minutes cette saison, simplement pour qu'ils se montrent. Et j'ai l'impression que les minutes d'Anthony Edwards seront des minutes où les Wolves seront mauvais. C'est pas contre lui, hein, mais c'est juste que voilà, c'est l'apprentissage. C'est un joueur qui a pas joué depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de Summer League à Las Vegas. Il n'y a pas eu de voilà. Il va rentrer directement dans le vif du sujet. On a vu que la sélection de tir, c'est quelque chose qui était problématique dans son jeu. Alors oui, peut-être qu'il va jouer plus avec le banc et avec Ricky Rubio pour amener un petit peu de stabilité, mais je pense que c'est un joueur qui sera plus un joueur négatif pour eux. Et comme c'est un joueur qui va jouer beaucoup et ce sera un joueur négatif, je pense pas qu'ils pourront aller jusqu'au play-in. Et puis dernier point sur les Wolves. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qui va se passer avec Malik Beasley, en fait? Puisque pour que l'équipe soit à son paroxysme offensivement, il faut que Malik Beasley joue. Alors, il joue la pré-saison, mais on sait que lui aussi, il a des problèmes avec la justice. Et comment ça va affecter sa vie en tant qu'homme?
Alan.
Je suis l'avocat de Minnesota et je me suis rendu compte que le dossier était aussi compliqué que pour l'avocat de Malik Beasley. Donc voilà. Je vais essayer d'être positif, même si, voilà, bien sûr, c'est pas la position la plus facile à défendre. Je crois vraiment à l'attaque des Wolves si, tout simplement, Karl-Anthony Towns et D'Angelo Russell jouent 80% des matchs. C'est ce qui s'est pas passé l'année passée. C'est ce manque de continuité dont je parlais dans le DH20 concernant l'entourage autour de Karl-Anthony Towns. Donc je pense que, alors bien sûr, c'est là, on va me dire, on met Anthony Edwards, c'est un first pick, mais on va le faire sortir du banc, on ramène Ricky Rubio. Alors, Ricky Rubio qui, même si c'est un bon joueur, Avoir Ricky Rubio dans ton équipe ne te permet pas seulement d'avoir une attaque top 5, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Mais il va pouvoir t'apporter des choses en tant que backup meneur. C'est aussi important d'avoir un bon backup meneur si tu veux avoir une bonne attaque. Je vais dire, je pense que si tu as cette base d'Angelo Russell qui est en interne, que tu joues beaucoup, beaucoup de pick and roll, tu pourrais avoir cette attaque top 5. Et après, il faudrait, voilà, missionner des gens à côté. Rancho Hernan Gomez peut être une option si tu veux vraiment tout casser en attaque. Jared Culver, Josh Okogie peuvent apporter de la défense. Tom n'a pas mentionné Jack Lehman, qui est un de ses clients préférés, mais c'est un
My
joueur
man.
qui peut aider la rotation du côté de Minnesota. Les cas Malik Beasley, Anthony Edwards, pour des raisons bien bien différentes, sont aussi difficiles à étudier. Je suis d'accord. Je pense que voilà, D'Angelo Russell 41 peut te permettre d'avoir une excellente attaque, et tu pourrais, avec de la chance, des blessures dans d'autres équipes à côté, pourquoi pas terminer 10e. Ça serait c'est un gros gros si, mais voilà, on a déjà défendu des criminels fous, donc pourquoi pas.
Tom, est-ce que tu veux nous répondre à ça?
Pas grand chose de plus à ajouter, pas grand chose de plus à ajouter, hein. Faudra juste sur, moi je pense qu'il faut voir surveiller les minutes des joueurs à l'aile et c'est juste ça, surveiller les minutes des joueurs à l'aile parce que je pense que c'est une équipe qui peut difficilement proposer sa plénitude offensive en étant correcte défensivement.
Rien à rajouter.
Très bien, bah écoutez, sur ce cas assez épineux et difficile, je vais quand même aller plutôt dans le sens de Tom. Comme tu le disais, Alan, tu n'avais pas la posture la plus simple concernant Minnesota. J'aime en tout cas une chose, c'est l'idée de voir en tout cas deux ball handlers comme Ricky Rubio et comme D'Angelo pour pouvoir accompagner Towns. Donc on a de grosses certitudes, ou en tout cas l'attaque devrait bien se porter. Mais après, moi, j'ai une autre question plus, voilà. Sur l'idée de qui va pouvoir starter, est-ce que c'est Malik Beasley, est-ce que c'est Anthony Edwards à cause de son statut, voilà, de first pick, tout ça, enfin, fait qu'il y a énormément de questions et forcément la concurrence est encore plus accrue avec des équipes qui ont bougé et qui étaient justement dans le giron un peu des Timberwolves. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt tendance à aller vers Tom concernant cette question. Messieurs, vous ne bougez pas. Vous gardez vos postures. On va attaquer cette fois-ci le cas d'une équipe qui voilà est chère en tout cas à notre ami Alan et qui est hypé par en tout cas sa vedette. C'est justement le cas des Pelicans. Et ben en fait la question elle va un petit peu aller dans le sens de celle qui était posée pour Minnesota. Maintenant c'est est-ce que l'on va pouvoir croire en tout cas en cette équipe et le fait qu'elle puisse viser le top 8 à l'Ouest, tout simplement. Du coup Tom, de ton côté ce serait plutôt répondre par la négative.
Ouais, moi je pense que les Pelicans c'est l'équipe la plus surcotée de la ligue. Enfin pour moi, hein, pour moi c'est carrément l'équipe la plus surcotée de la ligue. Alors oui, Zion est très fort, mais à part ça, il y a vraiment quasiment aucune certitude, hein. Enfin globalement, alors oui, il récupère Eric Bledsoe. On va me dire que Eric Bledsoe et VS l'idée sur la saison régulière, bon ça peut se tenir. Ensuite, moi je vois, enfin. Il y a d'énormes problèmes de spacing. C'est une équipe qui a fait un peu comme ce qu'a fait c'est une équipe qui a fait un peu comme ce qu'a fait les Hawks, c'est-à-dire qu'ils ont ramené un joueur, ils ont transféré pour un joueur et ramené un joueur sur le poste d'un joueur qu'ils ont drafté en top 10 l'année d'avant, donc Steven Adams qui va récupérer le poste de pivot titulaire et les prolonger alors que voilà, ils auront déjà drafté Jackson Hayes la saison d'avant. Je pense que c'est une équipe qui aura énormément de problèmes de spacing. Énormément de problèmes de spacing. Il n'y a aucun ball handler dynamique dans cette équipe-là. Lonzo Ball, c'est plus, on va dire, un joueur qui est moins à l'aise. Enfin, c'est un meneur qui ne dribble pas beaucoup. C'est un joueur qui a des prises de décision rapides et qui n'a pas beaucoup de touches avec la balle. Donc, c'est pas un joueur qui pourra attaquer frontalement une défense. Je pense que défensivement, c'est une équipe qui ne va pas pouvoir défendre correctement. Et je pense qu'ils sont en fait un peu le cul entre deux chaises, entre le résultat du présent et essayer de faire monter un peu la hype Zion et le monitoring du futur avec tous les assets de draft qu'ils ont récupérés, plus le joueur d'Alabama qu'ils ont drafté, Nickel Alexander Walker. Je pense que c'est plus eux, une équipe avec pas mal de darling, avec Josh Hart, tout ça. Tous les joueurs un peu modelés, entre guillemets, role-player. En fait, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs bien modelés role-player, mais ensemble, je trouve que cette équipe-là ne fait pas sens.
Alan, comme tu as pu l'entendre, l'équipe dont parlait tout à l'heure Tom et que lui estimait comme étant la plus surcotée de la ligue, bah, c'est celle-ci. Donc maintenant, à toi de me la défendre et de m'expliquer le contraire.
J'étais très enjoué à l'idée de défendre le client Pelican. Après, j'ai regardé l'effectif dans sa globalité derrière les 3-4 meilleurs joueurs et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu y a une perte de confiance dans mon client. Qui s'est quelque peu opéré. Quelques points. Jackson Hayes dans le top 10, c'est une erreur qui est déjà admise, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, on a drafté un Raymonder dans le top 10. C'est quelque chose qu'il faut jamais faire parce que c'est une ineptie complète. Et je pense que l'erreur est déjà admise. Steve Adams, c'est un meilleur joueur que Jackson Hayes, de loin. Et Jackson Hayes n'avait pas en plus l'argument du spacing que Steve Adams n'a pas non plus. Mais voilà. Mais on aurait pu dire ah on enlève du temps de jeu un post 5 qui aurait pu avoir du spacing. Jackson Hayes n'a même pas de spacing, donc c'est juste sur ce point là. En fait, j'ai envie de penser les Pelicans. Moi, je pense pas aux Pelicans de la bulle. Je pense pas aux Pelicans du début de saison 2019-2020. C'est peut-être une erreur. Je pense aux Pelicans des deux mois et demi du début 2020 quand ils sont positifs en 17-13. Quand Zion est un joueur en 22-6 avec un true shooting à quasiment 61% sur un usage à 30%, plus de passes décisives que de pertes de balles. Un joueur qui était positif en attaque et négatif en défense, mais qui a le potentiel pour être un joueur positif en défense. On l'avait vu quand on l'avait scouté en NCAA, il n'a pas défendu en première année. J'espère qu'il va défendre dans cette deuxième année. On a aussi Brandon Ingram qui était un All-Star. C'était peut-être pas mérité sur les choix collectifs, mais il a fait une grosse saison régulière à l'aile. Il y a cette continuité-là. Ensuite, derrière, c'est plus compliqué. Je suis d'accord. Eric Bledsoe apportera un niveau plancher en saison régulière. Lonzo Ball, si on joue de l'open court, ça peut être positif. JJ Redick est toujours là en termes de spacing. Je pense qu'il faudra toujours que JJ Redick joue quand Zion ou Steve Adams sera sur le terrain. Je fais confiance à Van Gundy pour faire ça. L'effectif est pas très profond, je suis d'accord. Mais si on a un step-up de Zion en année 2, que Brandon Ingram reste le même joueur, que Adams et Bledsoe jouent 80% des matchs parce qu'ils se blessent pas, je pense que ça joue le play-in.
Est-ce que tu veux répondre à ça, Tom?
La question, c'est pas est-ce qu'ils jouent le play-in, c'est est-ce qu'ils seront dans le top 8.
Ouais, mais
je pense qu'ils seront
mais
pas dans
le top 8. Mais on peut être en play-off sans être dans le top 8.
Ah non, mais la question, c'est pas est-ce qu'ils font les play-offs, hein, c'est est-ce qu'ils sont dans le
top 8. Ça, c'est une trouvaille du dossier que j'ai trouvé.
Ils sont dans le top 8. Moi, je pense qu'ils seront dans le top 8. Et puis, t'as parlé de JJ Redick. Moi, je pense que JJ Redick, il sera transféré, c'est la fin de saison. Je pense que ils vont vraiment se rendre compte que l'équipe est moins bonne que ce qu'ils croient. Et, je pense qu'ils vont, à la trade deadline, je pense que JJ Redick, il y a un des contenders qui vont essayer de le récupérer et je pense pas qu'il sera, je pense pas qu'il finira la saison en tant que Pelicans. Il y en aura plus de minutes de Nickel Alexander Walker, voilà, des joueurs qui font partie du projet futur plutôt que du projet actuel. Moi, je pense plus que ce sera ça.
Messieurs, j'ai envie de donner ce point-là quand même à Tom, tout simplement parce que lors de sa plaidoirie, notre ami Alan a utilisé le conditionnel et le terme « si » trois fois d'affilée. C'est quand même beaucoup, c'est comme se défendre avec l'arme du crime à la main. je vais aller plutôt dans le sens de Tom parce que je vois également les Pelicans peut-être plus beaux qu'ils ne le sont. Non pas de par le talent, ils ont quand même une moyenne d'âge d'à peu près 24 ans. Ils ont voilà quand même en leur sein deux joueurs qui en tout cas risque d'être confirmé très prochainement, la personne de Ingram et de Zion, mais le problème c'est que les pièces les unes assemblées aux autres ne font pas des Pelicans une équipe dangereuse. C'est-à-dire que ils ont du talent, mais ce n'est pas forcément le talent, en tout cas dans la manière dont il est constitué à New Orleans, qui pourront te faire gagner des matchs. Ils vont devoir revoir tout ça. Après, la lueur d'espoir, elle réside aussi dans le fait qu'ils ont énormément d'assets et qu'ils vont pouvoir bouger prochainement, comme le disait Tom, si ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, actuellement, ils sont overhypé, mais on peut quand même dire que l'avenir n'est pas non plus bouché totalement. Voilà, les amis. Du coup, bah écoutez, il nous reste plus qu'une équipe à pouvoir aborder pour ce qui est de ses previews. Et là, cette fois-ci, c'est Tom qui va être le juge peut-être de en tout cas de l'accusé peut-être le plus récidiviste de ce podcast.
Et oui, nous allons parler des Knicks, bien sûr, les Knicks et Knicks, que dire d'autre. Alors, pour les Knicks, du coup, la question retenue et la charge retenue, du coup, est-ce que RJ Barrett est déjà le joueur le plus important des Knicks ou du projet Knicks? On peut rajouter cette petite variante peut-être pour aider la défense.
Merci.
RJ Barrett est-il déjà le joueur le plus important des Knicks ou du projet Knicks? Alan?
Je vais dire non. Je tiens quand même à dire aux auditeurs que je m'occupe de cas complexes depuis depuis quelques minutes et que voilà, c'est un jeu intéressant dans mon cerveau ce qui se passe depuis quelques minutes. C'est le rôle d'un avocat. On va pas se mentir. Oui. Je dis non parce que si l'idée des Knicks c'est encore voilà avec un sérieux apporté par Tom Thibodeau cette année de pouvoir potentiellement parce que New York est reste New York, c'est... Putain, je dis des choses qu'un avocat... Je fais vraiment le métier d'avocat, c'est-à-dire que je dis des choses que je ne pense pas, mais qui peuvent être vraies pour défendre un client. C'est d'attirer un joueur à la Free Agency 2021, n'importe lequel, mais juste un joueur d'Akabi. Le fit avec RJ Barrett semble compliqué selon moi. Est-ce que RJ Barrett peut jouer avec un fort joueur à côté de lui? C'est un joueur qui a toujours eu le ballon en main, c'est un joueur qui... est un alpha dans sa tête et qui veut être le meilleur joueur de l'équipe. Je pense qu'il a une deuxième année là qui va être assez intéressante dans le projet Knicks. Pas vraiment de meneur à côté, donc c'est lui qui aura la balle. Des intérieurs comme Randle, Topin qui vont demander à être servis. Pas vraiment de présence sur l'aile, même si bon Kevin Knox a flashé Tom sur le premier match de pré-saison. Je pense que oui, de facto. Mais si on parle sérieusement, si les Knicks veulent se remettre sur la map, ça sera pas avec RJ Barrett en tant que meilleur joueur, selon moi.
Parole à Elias.
Alors, j'ai l'impression quand même que nos deux postures sont complexes, Alan. Donc, je vais essayer d'aller dans l'autre sens et dire que, voilà, RJ Barrett, deuxième choix de la draft de l'année dernière, qui a eu quelques flashs dans la saison, mais qui, selon moi, n'a pas véritablement eu le rendement que j'espérais de ce joueur.
Troisième, d'ailleurs.
Troisième, excusez-moi. Effectivement, derrière Ja Morant, cher Atom. Mais maintenant, on parle de l'actualité des Knicks et de la saison à venir. Et quand je dresse le roster de nos amis Knicks... personnellement, enfin, je ne vois pas comment RJ Barrett ne pourrait pas être autre chose que le joueur le plus important du roster, sachant que si ce n'est pas lui qui a le ballon, et je le préfère dans ses mains, c'est notre ami Elfrid Payton qui l'aura. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère voir la balle dans les mains d'RJ Barrett, continuer de le voir se développer. Et il y a peut-être un autre aspect intéressant dans la venue de Tom Thibodeau, c'est que généralement, quand il identifie dans une franchise un joueur important, peu importe si celui-ci assume le statut qu'est le sien au moment où Tom Thibodeau arrive, que ce soit avec Derrick Rose, que ce soit avec Andrew Wiggins ou même Jimmy Butler, tous ces joueurs-là ont eu énormément de minutes pour pouvoir se montrer, se développer et peut-être devenir le joueur que voulait que soit Tom Thibodeau. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui me rassure concernant RJ Barrett. C'est vrai que l'environnement n'est pas propice à pouvoir progresser et se développer de la meilleure des manières, parce que voilà, finalement, quand t'as le ballon, à qui tu vas le donner, qui va scorer à côté de toi, qui va te décharger de certaines responsabilités, quand toi, tu vas devoir te reposer, c'est un petit peu toutes les questions qui entourent RJ Barrett. Mais je pense que dans la saison des des Knicks, disons que le fit Thibodeau-RJ Barrett pourrait être intéressant dans un développement purement personnel. Après, si on doit aborder l'aspect purement collectif, bah, disons que les Knicks font bien de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire que ils ont une masse salariale qui est la moins importante de la ligue. Je crois qu'ils sont 29e sur 30 en tout cas, donc ils n'ont pas fait la bêtise qu'ils auraient pu faire par exemple dans les années précédentes, c'est-à-dire aller chercher un Derrick Rose, être tenté cette année par un Russell Westbrook ou un John Wall. Ils ont gardé leur flexibilité et les choses font que ça ne pourrait qu'aller mieux dans les mois à venir. Voilà.
Alan, petit doigt de réponse ?
Non, j'ai pas la position la plus facile. Tu draftes un joueur top 3, bien sûr que c'est lui que tu as envie de voir, mais j'ai essayé voilà, de montrer que c'est le problème de fit avec une potentielle star qui vienne pour poser problème. Mais c'est ce qu'on dit avec les Knicks depuis 10 ans, c'est pas la meilleure défense que j'aurais pu faire.
Pour vous, Maître Alan, est-ce que joueur comme Obi Toppin fit plus avec le prochain joueur du projet, le joueur le plus important du projet Knicks ?
Pour les top 10, oui. Pour gagner des matchs en playoff, non.
Ilias, ton réponse, du coup ?
Bah écoute, non, moi je reste en tout cas sur ce que j'ai pu dire sur RJ Barrett et enfin... Obi Toppin, il apportera peut-être ce qu'apporte déjà, par exemple, un joueur comme Julius Randle, c'est-à-dire un joueur fort à l'intérieur d'un côté du terrain, mais qui aura des énormes carences de l'autre côté, ou en tout cas, c'était plutôt son profil que nous avait dressé Alan lors de la mock draft. Donc moi, personnellement, c'est pas vraiment le joueur que j'identifierais, en tout cas pour l'avenir des Knicks. Je préfère me reposer sur ce que propose pour l'instant RJ Barrett et qui me semble avoir un niveau plancher beaucoup plus important.
Bah du coup, je pense que je vais quand même donner le point à Igas puisque enfin c'est le joueur le plus important du roster actuel. Mais c'est vrai que Alan a bien fait remarquer. Pour moi et comme il l'a mentionné, hein, ça ne peut pas être le joueur le plus important aujourd'hui du futur projet Knicks. Si jamais c'est lui le meilleur joueur. Donc voilà pour ces previews. On va vous épargner tous les détails techniques qui sont survenus voilà qui ont parsemé notre après-midi qui sont survenus lors de cet épisode. Ben voilà pour les previews des équipes de 11 à 20 et la semaine prochaine du coup on terminera sur les autres équipes. Alan et Ilias, vous avez quelque chose à dire du coup cet épisode ?
Pas du tout, c'était top. C'était des soucis qui sont ce qu'ils sont, mais c'était super d'enregistrer. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des 10 dernières équipes de la NBA.
Totalement. Et on tient à présenter nos excuses à tous les étudiants en droit. Peut-être qu'on a usé de termes qui n'étaient pas appropriés.
On n'a pas toujours respecté la procédure.
C'est vrai, mais après nos références, c'est faites entrer l'accusé et les chroniques criminelles. Donc c'est ça. Voilà. Ça ne va pas plus loin.
C'est ça.
Allez, salut bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous, salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.